C'est à vous, Corinne Audouin, dans le prétoire, direction la Cour nationale du droit d'asile à Montreuil. Cette cour, c'est un peu la tour de Babel, puisqu'on y traite, Corinne, des demandes d'asile du monde entier.
Oui, devant le bâtiment en briques rouges, on parle albanais, chinois ou bambara. Les déboutés du droit d'asile viennent ici présenter leurs recours. Au rez-de-chaussée, les décisions de la cour sont affichées. Sur deux étages s'alignent des dizaines de salles d'audience. Alors on entre un peu au hasard, salle numéro 8. L'audience est publique, mais il n'y a que des avocats, un interprète et des requérants. Derrière la table, la présidente s'énerve contre son ordinateur. Elle ne porte pas de robe noire, pas plus que ses deux assesseurs. Il n'y a pas de procureur, mais une greffière et un rapporteur chargé de résumer l'affaire et de donner un avis.
Et ce matin de novembre, deux Afghans se succèdent.
Oui, si c'était une fable, on pourrait l'appeler l'Afghan des villes et l'Afghan des champs. Le premier s'appelle Sharifullah. Il a fui son village fin 2016, car les talibans voulaient l'enrôler. Sharifullah a 25 ans, un jean, des baskets et un sac à dos. Son récit n'est pas très étayé, a dit l'OFPRA, pour lui refuser le statut de réfugié. On commence par l'audience, par rechercher son village dans la province de Nangarhar. C'est Bara Saparay ou Saparay tout court, demande la présidente en tournant une carte dans tous les sens. Saparay, répond-il. On lui demande le nom d'un cours d'eau, d'une montagne à proximité. Il ne sait pas. Je n'ai vécu que dans mon village, dit le jeune homme. Pourquoi les talibans le cherchaient? Je suis le fils unique de parents agriculteurs, dit-il. Alors son père avait obtenu un délai. Quand les talibans sont revenus le chercher, il s'était enfui. Ils ont enlevé et tué son père. Le jeune homme n'a pas grand-chose à ajouter, sauf quand on lui demande ce qu'il cultivait. Du maïs, des pommes de terre, des oignons, des aubergines, du blé, le voilà intarissable. Mais l'audience est terminée. Il dit au revoir en français dans un grand sourire.
Et puis vient l'incroyable histoire d'Ahmed.
Ahmed, 28 ans, est mince et élégant dans sa chemise à carreaux. En Afghanistan, il était policier, comme son père, tué en 97 par les talibans. Ahmed parle anglais, un peu français aussi. Il était le bras droit de son commandant. Il a empêché un kamikaze de se faire exploser. Après ça, les talibans voulaient le liquider. Ahmed a apporté sa carte de policier, son diplôme et même un article sur son geste héroïque dans le journal local. Alors on se pince un peu. Pourquoi Ahmed n'a-t-il pas eu du premier coup le statut de réfugié? Il n'est plus policier, rien ne prouve qu'il soit toujours en danger, a balayé l'OFPRA. La présidente qui a fait venir un informaticien est de plus en plus excédée. On interroge Ahmed un peu brusquement, il se met à pleurer. Le 5 janvier 2017, raconte-t-il, j'étais chez ma mère, les talibans ont tapé à la porte, mon frère aîné a ouvert, ils l'ont tué direct. Mon deuxième frère est sorti, ils l'ont tué aussi. J'étais à l'arrière de la maison, j'ai pris la fuite. Ahmed s'essuie les yeux avec un mouchoir discrètement donné par l'interprète. Encore quelques questions. Le rapporteur lui demande « Vous aviez quoi comme arme ?» Une Kalachnikov et un pistolet Makarov. « Parfait !» hoche le rapporteur de la tête. Ahmed pleure de plus belle, s'excuse, c'est parce qu'il a parlé de ses frères. Levant le nez de son ordinateur défaillant, la présidente est touchée par sa détresse. « Vous aurez la réponse dans 3 semaines, dit-elle. Votre avocat se fera un plaisir de vous informer. »
Dans le prétoire à la Cour nationale du droit d'asile, c'était la chronique du service Police-Justice de France Inter, service dont vous faites partie, Corinne Audouin.